le meilleur de mes bonhommes et ils vont se battre ensemble et l'issue du combat, ce sera un verdict des dieux. C'est comme ça qu'ils voyaient dans leur esprit et dans leur philosophie. Et vous devez comprendre cette pensée, c'est que Israël s'appuyait constamment sur la bonté de Dieu alors qu'ils étaient ensemble. Ils étaient forts ensemble. Et à chaque fois, c'était de la même façon. On prie Dieu, on fait un sacrifice. Et Dieu, il nous dit, OK, go, il est avec nous et on va faire des miracles. Et ça va être extraordinaire. Il va y avoir des choses juste dingues qui se passent. Et c'était à chaque fois ensemble. Sauf que pour la première fois, le diable prend une stratégie qui est complètement différente. Et il dit, ça ne va pas être tout le monde ensemble. Ça va être juste une personne en particulier. Toi, viens et avance-toi. Il y a cette pensée, les amis, c'est que lorsque nous sommes en église, on est bien, on est fort ensemble. Mais j'aimerais vous proposer l'idée que, avant tout, la foi est personnelle. J'aimerais vous proposer l'idée qu'il y a des fois et des moments dans la vie où tu n'auras pas l'église qui est autour de toi, mais ce sera toi tout seul. Vous êtes là ? Et il y a des gens, ils viennent le dimanche matin, ils disent « Oh mon Dieu, je sens la présence de Dieu, c'est fort, on est bien, c'est bon, il y a le peuple de Dieu. » La réalité, c'est que lundi matin, tu seras tout seul dans ta voiture. Est-ce que vous me suivez ? Face à des défis, face à ton business que tu dois faire marcher, face à un commercial, à appeler les gens, face à une maman qui est tout seule avec ses enfants, tu seras tout seul. Et parfois, il y a toute cette intimidation qui est là, où on fait face à un géant dans notre vie, on fait face, et quand vous lisez le texte, c'est incroyable parce que le texte, il nous dit que le géant, il venait et il menaçait l'armée de l'Éternel. Il venait, mais tu sais, il y a cette intimidation en disant, mais viens là, viens là, et si tu t'approches, je vais te tuer. Il venait le matin et il venait le soir. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, il y a toute l'armée a eu peur. Et ils sont devenus complètement immobiles et inoffensifs. Et parfois, il y a des géants dans nos vies qui viennent et qui nous menacent. Ça va être le matin, moi, il y a des géants, j'ai fait au niveau de mon business, au niveau de mon activité commerciale. Il y a des fois, je me levais le matin, c'était la première pensée que j'avais, ça me stressait. J'allais le soir, c'était la dernière pensée que j'avais qui me stressait. Et je portais ça devant. C'était comme à l'intérieur, c'était plus fort que moi. Parce qu'il y a des gens, vous comprenez de quoi je parle. Et c'est fou, tu voudrais faire quelque chose, mais tu n'arrives pas. Tu voudrais combattre, mais tu n'arrives pas, tu n'en as pas les forces. Et j'aimerais vous proposer ceci ce matin. Une première victoire que l'ennemi a réussi à remporter, c'est de leur faire croire un mensonge. C'est de leur faire croire que si tu viens te battre et si tu m'affrontes, tu seras tout seul. Personne dans l'armée n'a rentré Dieu dans son combat. Ils pensaient que Dieu était avec eux en foule, mais pas individuellement. Mais la réalité, celle-ci, c'est que Dieu aurait pu oindre de son esprit n'importe quel soldat, n'importe quel pimpin qui se serait avancé, parce que c'était plus une bataille. Je dirais, vis-à-vis de l'armée de Saül, c'était une bataille avec une insulte directement auprès de Dieu. Est-ce que vous me suivez ? J'avance. Mon premier point, c'est un combat secret pour une victoire publique. Et on va voir, il y a un jeune homme qui s'appelle David qui est venu et qui va complètement faire une différence sur le champ de bataille. Et David rentre en scène, et quand vous lisez l'histoire, je vous invite à lire toute l'histoire de Samuel. Elle est tellement vivante et elle est tellement... encourageante et enthousiasmante de ce que Dieu est capable de faire dans nos vies. David vient, c'est un jeune berger, il a seulement 17 ans. Et David a une foi qui ébranle le ciel. Et David vient ce jour-là, il n'est même pas prévu sur le champ de bataille. En fait, à la base, David, il vient livrer des pizzas à ses frangins. Son père lui dit, écoute, tes frères sont sur le champ de guerre, va leur apporter à bouffer. Et en gros, il vient, il est... Et puis pendant qu'il la ramène avec ses mules à manger et les pizzas, et tout d'un coup, il y a ce géant qui vient et qui menace Israël. Et David le voit et il dit, mais qui c'est ce mec ? Qui c'est ? Il s'avance vers lui. Mais vas-y, il n'y a personne pour aller le découper. Et puis tu sais, t'as des types, t'as des gens, c'est des guerriers depuis des années. C'est des barbus, c'est des tchétchènes, c'est des types, ils savent se battre. Et il y a un jeune adolescent qui veut qu'une seule chose, c'est aller lui couper la tête au géant. T'imagines un peu le truc ? Et David, voici ce qu'il dit. Que personne ne perde courage à cause de ce Philistin. Il est amené chez Saül et il dit à Saül, son roi, moi ton serviteur, je le combattrai. Mais Saül, il regarde, c'est le roi. Saül, il lui dit, mais tu ne peux pas aller contre ce Philistin, tu n'es qu'un gamin. Alors que lui, c'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Et David répondit à Saül, écoute, majesté, quand je gardais les moutons de mon père et qu'un lion ou même un ours survenait, emportait une bête du troupeau, je courais après lui, je l'attaquais et je lui arrachais la bête de sa gueule. Si le fauve se dressait contre moi, je prenais par son poil, je le frappais jusqu'à ce qu'il soit mort. Puisque j'ai tué des lions et même des ours, j'abattrai bien ce Philistin comme l'un d'eux, car il a insulté les bataillons du Dieu vivant. Puis il ajouta dans la diapo, l'Éternel, dites avec moi, l'Éternel, qui m'a délivré de la griffe du lion et de l'ours, me délivrera aussi de ce Philistin. Alléluia ! C'est extraordinaire, David vient et dit, votre majesté, écoutez, j'ai quelque chose à vous dire. Il dit, un jour, j'étais dans une plaine, il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 4 ans, j'en sais rien. Et moi, vous savez, je suis berger de métier. Et un jour, j'ai vu un ours qui est venu. Et ce jour-là, et c'est fou, j'ai eu peur, je me suis caché peut-être derrière un rocher, mais à ce moment-là, j'ai appelé Dieu. J'ai crié à Dieu et il y a un courage qui m'a saisi et j'ai commencé à faire face et vous croirez peut-être jamais, mais j'ai tué un ours. Et puis, 6 mois plus tard, il y a eu un lion qui est venu et j'ai tué un lion. Oui, et ce géant-là, ben pour moi, c'est la même chose. Les amis, je vous propose un combat entre un ours, un lion ou un géant. Vous choisissez quoi? Voilà, au moins c'est franc. Il y a un ours, fuyons! Mais est-ce que vous comprenez que pour David, c'était la suite d'un combat logique? Vous êtes avec moi? David, il a vu le géant, mais écoutez bien ceci, David a appris à mettre Dieu dans un combat caché et personnel que personne n'a vu. Laissez-moi vous expliquer ceci. Ce qui se passe avec David, c'est que le jour où il a tué son premier ours, son premier lion, il n'y avait pas BFM Business, il n'y avait pas BFM TV, TF1, venir faire clac, clac, clac des photos. « Oh, salut David, dis-nous comment t'as tué le lion ?» Non, en fait, il n'y avait personne. C'était un combat secret, personnel, que personne n'a vu, mais il a mis Dieu dans son combat à lui. Et le jour où il a vu un géant, le jour où il a vu une autre réalité, une autre impossibilité, tout ce qu'il avait appris, ça a capitalisé dans sa vie pour pouvoir faire face à ce plus grand combat. Vous êtes avec moi? Toute l'armée d'Israël avait peur. Ils voyaient le même géant, David le voyait. Toute l'armée d'Israël était là en faisant « Mon Dieu, c'est un géant, il est immense, il va tous nous tuer !» David le voyait, il fait « Mon Dieu, c'est un géant, wow, je ne peux pas le louper !» La même situation, le même géant, la même réalité, un regard différent. Et tu vois les choses différemment quand tu mets Dieu dans ton combat. C'est son histoire, c'est son expérience. Seigneur, viens à mon aide, viens. Le secret, j'aimerais vous proposer les amis, c'est que le lieu secret, c'est un endroit où tu expérimentes Dieu, c'est un endroit où tu amènes Dieu, c'est l'intimité de nos cœurs, ça va être chez toi quand toute la maison est partie et que tu es tout seul en train de boire ton café, ça va être dans ta voiture, moi souvent j'ai ces moments-là de louange et de reconnexion avec Dieu, c'est ce temps intime à part où tu es tout seul. Il n'y a personne qui est là pour t'applaudir, il n'y a personne qui est là pour te critiquer. Il y a juste toi et Dieu, et parfois ton géant. C'est un problème de santé. J'ai récemment vu une jeune fille qui me disait qu'elle était complètement anorexique, elle se déteste elle-même, elle se scarifie, et je priais pour elle, et elle me racontait, elle me dit « mais c'est un géant qui vient devant moi ». Et on a prié pour elle au nom de Jésus qui te libère et qui te délivre. Je vous parle de choses réelles dans la vie. Et souvent, Satan vient et il te met des mensonges que tu es tout seul. Il faut que tu mettes Dieu dans ton combat. J'avance. Le lieu secret, dans le lieu secret, il y a une révélation de qui il est et de qui je suis. On lit ensemble. L'Éternel, prochaine diapo, l'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül ? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. » Et là, juste pour vous donner un petit peu de contexte, on revient un petit peu en arrière. Ça, c'est l'élection, la première fois que David a été oint par le prophète Samuel. Et Dieu parle à Samuel, il dit « Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, car j'ai vu parmi ses fils un homme que je désire. » Alors Samuel se fait ce que l'Éternel lui avait dit, il alla à Bethléem chez le père de David, Isaïe. Et lorsqu'ils entrèrent, Samuel se dit en lui-même, il voit l'aîné de la famille qui s'appelait Eliab. Il dit « Certainement, loin de l'Éternel est celui-ci. » Et l'Éternel dit « Ne regarde pas, ne prends point garde à son apparence, à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'Éternel regarde au cœur. » Alors, puis, je vous paraphrase, t'as le papa d'Isaïe, il fait avancer tous ses enfants et l'Éternel n'en choisit aucun. Et tout d'un coup, Samuel dit à Isaïe, ce sont-ils là tous tes fils ? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le le chercher, car nous ne placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe, le père, l'envoya le chercher. Et quand il arrive, or il était blond avec des beaux yeux, une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile, il le loignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour-là et dans la suite, yes. Waouh. Quand on lit le texte, en fait, il y a des choses qui sont marquées derrière le texte. Quand vous lisez l'histoire, il y a un moment donné, Samuel, en ce temps-là, c'était un juge en Israël. C'est l'équivalent d'un premier ministre. Quand il venait, il y avait tout le village qui venait, il y avait une fête, on faisait un sacrifice, on amenait un cadeau. Enfin, c'était énorme. Et quand Samuel vient, déjà Samuel demande au père de David, amène tous tes enfants. Et là, on ne sait pas pourquoi, mais David est oublié. Et puis ensuite, alors il y a le grand casting de la future star. Et là encore, David est oublié. Et pendant longtemps, j'ai pensé qu'on avait oublié David. Et j'aimerais vous proposer l'idée, c'est que David n'a pas été oublié, mais David, on a voulu le cacher. Et pourquoi ? Et on le voit dans un texte, et on surprend une révélation de David. Il nous dit quelque chose qu'on n'avait pas vu jusqu'alors, mais David, dans le psaume 51, prochaine diapo, voici ce qu'il dit. C'est un psaume de repentance, il est complètement brisé. Il donne un secret de son enfance que personne ne savait. Il dit « Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. » Ce que David est en train de nous dire ici, il parle d'une histoire de famille. Il parle d'un truc qu'on ne parle pas tellement dans la famille. Il dit « En fait, je suis né dans le péché », c'est-à-dire que ma naissance, comment je suis venu au monde, ce n'était pas dans les règles de l'art, comment Dieu voulait vraiment qu'on soit. Et en clair, certains commentateurs bibliques pensent que David, soit il a été adopté et placé chez Isaïe, soit il pense que Isaïe, son père, c'était une erreur morale où, entre guillemets, il avait couché avec une autre femme et il avait eu cet enfant-là. Du coup, tout ça pour dire quoi ? C'est que David n'a pas l'arrière-plan, n'a pas, la bonne famille. Il ne vient pas de chez la famille Kardashian. Est-ce que vous me suivez ? C'est pas... Et il est l'enfant qu'on cache, il est l'enfant qu'on n'a pas envie d'avoir, il est l'enfant qu'on n'a pas envie. Il y a une espèce de honte, il y a une espèce de non, mais en fait, c'est fou. Rejeté, pas voulu. Et pourtant, Dieu, il le pointe du doigt et lui dit, c'est toi que j'ai choisi. Parce que tu as appris à m'expérimenter dans tes combats cachés, singuliers, personnels. Et la bonne nouvelle, les amis, je peux vous dire que les hommes peuvent vous oublier. Les gens peuvent vous mettre de côté. Vous pouvez être inconnu des hommes, mais connu de Dieu. Et ce n'est pas important ce que les gens disent sur vous, c'est important qu'est-ce que Dieu dit à votre sujet. Rejeté, oublié, paumé, et Dieu va le chercher. Et dernier point, la foi... Quand vous décidez de combattre, quand vous décidez de vous lever pour Dieu et de faire des grandes choses, il y a toujours deux réactions que vous allez avoir. La foi entraîne toujours l'opposition et la propagation. On revient sur la scène du champ de bataille. David veut aller combattre le Philistin, cette espèce de géant. Et David demanda aux hommes qui se tenaient autour de lui, « Mais qu'est-ce qu'on donnera à celui qui abattra ce Philistin et qui lavera du peuple d'Israël la honte qu'il lui infligeait ? Qu'est donc cet incirconcis pour oser insulter les bataillons du Dieu vivant ?» Puis on répète à David en fait ce qui était promis en récompense à celui qui tuerait les géants. Et lorsque son frère Eliab entendit discuter avec les soldats, il se mit en colère contre lui. Et lui dit, « Que viens-tu faire ici ? À qui est-ce que tu as laissé les moutons dans la steppe ? Je te connais bien, moi, espèce de petit prétentieux. Je sais quelles mauvaises intentions tu as dans ton cœur. Tu n'es venu que pour voir la bataille. » Et David lui répondit, « Hey ! Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? J'ai plus le droit de parler maintenant ? De quoi tu me parles ? Oh, j'ai pas le droit de l'ouvrir ? » Tu vois, c'est vraiment ça. Puis il tourna le dos, dites avec moi, tourna le dos à son frère. Et il alla se renseigner auprès d'un autre soldat et on lui fit la même réponse que la première fois. Donnez-moi toute votre attention, je termine ici. Quand vous allez vouloir faire des choses pour Dieu, la réalité, c'est que vous allez trouver parfois de l'opposition. Et parfois, vous pouvez même trouver de l'opposition dans l'église. Il y a des gens qui vont venir avec des paroles très spirituelles. Petit prétentieux, c'est ta chair, c'est ton orgueil. Mais ce n'est pas toi qui vas devoir combattre le géant, c'est le Seigneur, alléluia. Tu dis, ouais, j'entends bien, mais pour aller faire le job, il faut quand même qu'il y ait quelqu'un. Est-ce que vous êtes avec moi ? Puis il y a toutes sortes d'espèces de phrases spirituelles, tu sais, même dans la vie chrétienne. Puis moi, je me rappelle, pas chez nous, pas à Grenoble, mais ailleurs, quand j'étais à Paris. Parfois, il y avait des gens qui venaient et qui disaient, ouais, mais si c'était simple, on l'aurait déjà fait. Tu sais, j'ai à cœur de faire un truc pour Dieu, j'ai à cœur de démarrer quelque chose. Et puis, ouais, mais tu crois que c'est facile toi, t'arrives, mais on se calme. Oh, mollo, ouh. Quand tu auras de la sagesse comme nous, quand le Seigneur te montrera, alléluia, tout ce qu'il a fait à ce moment-là, oui, oui, tu auras la grâce et l'onction. Est-ce que vous me suivez ? David a fait des choses parce qu'il ne savait pas que c'était impossible. David a remporté des combats parce qu'il ignorait que c'était impossible. C'est l'histoire, par un étrange sort du destin, c'est une histoire. Par un étrange sort du destin, il y a un œuf d'aigle qui tombe au bord d'un chemin et il y a un fermier qui passe ici, il prend l'œuf d'aigle et pour décider de le sauver, il va dans son poulailler et il glisse l'œuf sous une poule. Et la poule a décidé d'élever ce petit aiglon et à sa naissance, cet aiglon, il a compris, il a vu qu'il était différent des poules, mais la maman poule qui était là, courtoise, gentille, elle a pris ce petit aiglon sous sa gouverne et elle a commencé à lui transmettre tout ce qu'une poule devait savoir, à savoir gratter la terre, chercher des vers, caqueter sans arrêt. Et très rapidement, notre petit aiglon, c'est devenu un aigle poule, à gratter la terre, tap, 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 à gratter la terre, à chercher des vers. Et à l'automne de sa vie, un jour, par une journée ensoleillée, il voit un aigle dans les cieux. Magnifique, royal, majestueux. Et puis là, le petit aiglon, il le voit, il se met à pleurer, il fait « Wow, c'est beau, c'est extraordinaire !» Et bien avec ses ailes, pop, 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 il va vers sa maman, il dit « Maman, 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 regarde, c'est... » Avec l'aile comme ça, imaginez, « Maman, c'est qui ça ?» Elle dit « Ah ça, mon garçon, c'est un aigle !» C'est le roi de tous les oiseaux. Maman, c'est extraordinaire, c'est beau. Mais tu sais, tu sens qu'il y a quelque chose qui vibre en lui. Tu sens qu'il est connecté à ce qu'il est en train de voir. Tu sens qu'il y a des aspirations où il voudrait voler comme ça. Et puis il dit, maman, est-ce que tu crois qu'on pourrait voler comme ça ? Un jour, je pourrais voler comme ça. Et la mère, avec un petit peu froidement, un petit peu sèchement, mais très direct, elle lui dit, n'y pense même pas, t'es qu'une poule. Tournez-vous vers votre voisin et dites-lui, tu vaux bien mieux qu'une poule. Dites ça à quelqu'un à côté de vous. Les amis, t'es pas une poule, t'es un aigle. Arrête de chercher des vers, de gratter la terre. Envole-toi plus haut par la louange, par l'adoration. Va vers Dieu ton Père. Bon, il y a certaines poules, certains aigles, il va leur falloir un peu des grandes ailes pour pouvoir décoller, là, vu le poids que je fais, mais en tout cas, je ne suis pas qualifié. Mais écoutez les amis, Dieu ne cherche pas des gens qualifiés pour faire son job. Dieu ne cherche pas des gens qualifiés. Écoutez les amis, dans toute l'histoire de la Bible, Dieu prend des disqualifiés, c'est lui qui les qualifie. Et souvent, il disqualifie les qualifiés. Alors à tous les disqualifiés ici, vous avez votre chance. Regardez, dans l'histoire de la Bible, c'est ça, c'est tout. Et franchement, quand tu regardes, on va se parler franchement ce matin, ok. Quand tu regardes l'histoire des disciples, c'était pas des prix de Nobel, les gars, vraiment. Quand tu regardes Jésus vient, à chaque fois, les disciples, ils ont jamais pêché un poisson, pourtant ils étaient pêcheurs, c'était leur business. Leur business marchait pas. Jésus, il vient, il dit, « Oh, homme, est-ce que vous avez péché ?» Non, on n'a rien péché. Jésus, à chaque fois, est obligé de faire un miracle pour que leur business, il marche. Jeter les filets de côté en une pêche. Ah, Jésus a fait un miracle. À chaque fois. Regardez, l'histoire de la Bible, c'est ça. Jacob, c'était un tricheur. Pierre, c'était un impulsif. David a eu un adultère. Noé était ivre. Jonas a fui Dieu. Paul était un meurtrier. Gédéon a peur. Myriam était bavarde. Sarah était impatiente. Thomas était sceptique. Élie était dépressif, Moïse bégayait, Zachée était de petite taille, Abraham était vieux et Lazare était mort. Et vous, c'est quoi votre problème? Regarde la Bible, c'est tous une bande de bras cassés que Dieu prend et fait éclater sa gloire. Et je parlais de ça avec un pote hier, mais je dis tous les grands dans la Bible ont mal fini. Quand tu regardes Salomon, c'est un winner. Il a mal fini. Saül, grand. Et en fait, c'est comme si Dieu se plaît dans notre incapacité humaine à mettre sa gloire, sa puissance, son potentiel et à faire des grandes choses. Hallelujah. Quand David a eu besoin d'aide, il a crié à Dieu, il a mis Dieu dans son combat. Et tout d'un coup, il est projeté sur la scène pour un combat beaucoup plus grand sur une nation. Mais apprends à rentrer Dieu dans un combat individuel, dans les choses auxquelles tu fais face, dans les choses qui te sont personnelles. Et dernier point, c'est que David a eu de la propagation. Ce que David dit parvint rapidement jusqu'aux oreilles de Saül, et aussitôt, il le fait venir. J'aimerais vous dire, les amis, en conclusion, c'est que lorsque vous avez décidé de faire des choses pour Dieu, il y a des gens autour de vous qui vont se greffer à vous en disant, ça y est, tu sais quoi, je viens avec toi, je te suis. On n'a pas l'argent pour démarrer ça, mais depuis quand est-ce qu'on commence à faire quelque chose avec de l'argent? Tu veux commencer à faire quelque chose? Vas-y, fais-le. Tu vas inspirer des gens autour de toi. Il y a ta foi, qui tu es. Ça va inspirer des gens. Je suis en transition professionnelle. C'était lundi dernier. Lundi dernier, je suis monté à Lyon pour toute une formation avec des commerciaux dans une nouvelle boîte. Et c'est compliqué. Je dois à nouveau prendre un nouveau job, des nouveaux trucs. Et je suis arrivé en formation, on est une vingtaine dans une classe, etc. Et puis lundi matin, tout le monde fatigué, tu sens que tout le monde a pris le métro ou le périph et tout le monde est là. Et tu sens une espèce de lourdeur, une atmosphère dans une classe. Et puis tu sens l'esprit français. On vient, on râle pour tout. Ouais, ça arrive. Tu sens des Français. Genre. Et on vient et tout le monde, l'atmosphère est là. Et puis tout d'un coup, moi, je suis là et je dis, Seigneur, je suis là pour amener ta gloire. Et puis, on me dit, tiens, le monsieur qui est là-bas, c'est avec lui que tu vas partager. On m'avait loué un Airbnb. Et quand je vois le monsieur, tu sens, il porte une espèce de lourdeur sur lui. Et spirituellement, je suis sensible à ça, forcément. Et je me dis, oh là là, ça va être compliqué, là. Monsieur, tu sens, tu as l'impression qu'il a mangé dans un citron. J'aime bien les gens, mais ça va être intéressant. Et puis tout d'un coup, je dis, Seigneur, change mon regard. montre-moi comment toi tu vois les gens. Et j'ai changé d'attitude. Smiley. Je commençais à aller vers les gens, bonjour. Déjà, quand tu dis bonjour aux gens, sourire, salut, bonjour, salut, ça me fait plaisir. Personne ne disait bonjour à personne. Je vais saluer, comment tu t'appelles ? Moi, c'est Jonathan. Mais pourquoi tu viens me dire bonjour ? Ça, je suis ici pour amener la gloire de Dieu. Ici, c'est mon périmètre. Partout où c'est moi qui ai l'onction. C'est moi qui change l'atmosphère. Est-ce que vous me comprenez ? Il y a le recruteur qui était là. Et à un moment donné, il nous a appris à faire ce qu'on appelle dans notre jargon une déballe. Il nous a dit, voilà, vous avez 2 pages à apprendre. Apprenez-les par cœur. Il dit, dans 2 heures, il faut que vous prêchiez la bonne nouvelle. Et puis les gens ont commencé à passer, et puis tu vois, et devant tout le monde, hey, c'est bon, t'as pas appris ton texte, va te rasseoir. Et moi et ma mémoire, ça fait 2. Et tout d'un coup, je sais pas pourquoi, je dis, Seigneur, faut que tu m'aides. Et je me suis levé devant tout le monde, j'ai tout simplement souri. J'ai commencé à annoncer ce qu'on me demandait de faire, mais avec le sourire, avec l'onction. Toute la classe, ils ont applaudi. Waouh, t'es qui toi, t'es qui? Eh, mais moi, je t'achèterai un truc tout de suite. Bref. Et je me retrouve le soir, puis toute la journée, c'est comme ça. Il y a plein de trucs. Je suis en insécurité, je suis pas bien, je suis là. Il y a l'église, machin. Et moi, dans ma tête, pétard, lundi, ça va être comme ça toute la semaine. On va se manger des 9h jusqu'à 20h. Et samedi, je prêche. Donc, c'était hier. Je me dis, il faut que tu prêches. Dimanche matin, t'enchaînes à Connect Grenoble. Mais je me dis, mais je crains pour ma santé mentale, quoi, tu vois. C'était, merci. Ça s'éclate de rire. Et j'étais comme ça. Et bref, j'étais devant mes géants. Et le soir, je me rappelle, on va au restaurant et je vais avec mon monsieur qui partage, le monsieur dont je vous ai parlé, là, le mangeur de citron, puis un autre gars. Et on va au restaurant. Et puis on est comme ça, et puis les gens commencent, on est dans un autre cadre, la journée est finie, on est tous fatigués. Et puis on commande le repas, et puis je commence à lui poser la question, mais toi tu viens d'où, tu fais quoi, etc. Puis toi tu viens d'où? Et puis moi, écoute, je viens de Grenoble. L'autre il venait de Lourdes, il venait de ceci. Et puis tout d'un coup, je sens l'Esprit de Dieu qui me dit, parle-leur de moi. Je dis, ouais Seigneur, c'est pas tellement, ok, bah écoute, pourquoi pas. Et alors moi c'est facile, je dis, bah écoute, on est venu à Grenoble, en fait, je suis pasteur. Et le gars, il me regarde, il me dit, tu blagues? Je dis, non, c'est vrai, je suis pasteur. Le dimanche, je parle à des gens. T'es pasteur? Ben oui. T'es pasteur? Ben, ça fait 2 fois que je te le dis, ouais. Oh, mais c'est extraordinaire, c'est incroyable. Et en fait, alors que je lui annonce ça, je ne sais pas comment te dire, le monsieur insipide avec un citron, sa face a complètement changé. Son visage s'est éliminé. Et le gars d'à côté... Il me dit, écoute, en fait, moi, j'étais un catholique et je me suis, comme ça, littéralement, je me suis éloigné de Dieu. Je dis, ah bon, d'accord, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Et puis, il dit, je suis tombé en dépression, ma femme m'a quitté. Il commence à me parler toute sa vie. Et on s'est mis à parler de Dieu pendant 1 heure, 2 heures, ça n'arrêtait pas. Et il me dit, mais c'est fou. Et l'autre, il dit, écoute, tu vas pas me croire, mais ce matin, j'étais dans ma voiture en train de dire à Dieu, il met quelqu'un sur mon chemin qui me parle de toi. Et il me dit, en fait, et il commence à avoir ses larmes, ses yeux embués, il me dit, pour moi, que tu sois ici, je ne sais pas si je vais continuer dans ce job, mais ce n'est pas un hasard, c'est que, en fait, Dieu est en train de me parler au travers de toi. Et là, j'ai fait, Joe, vas-y, ok, alors là, je t'explique, ce n'est pas un hasard, Dieu te cherche, en fait, il y a des plans, il y a des projets que Dieu veut pour toi dans sa vie, je commence à aller en parole de connaissance, et le gars, il était nettoyé, le type à côté, mon ancien, en fait, l'autre catholique, Monsieur Citron, qui était là, et qui me dit, mais c'est fou, mais qu'est-ce qui se passe? Non, t'inquiète pas, c'est juste la présence de Dieu, c'est comme ça, ça arrive, vas-y, t'inquiète pas, laisse faire. Et juste, Seigneur, je t'appelle, et en fait, tu sais ce qui se passe, c'est que Dieu, il va ressusciter des rêves en toi, je prie Dieu qui redonne la santé, c'était dingue. Vendredi soir, tout est terminé, je vais pour partir et j'ai mon monsieur catholique, monsieur Citron, qui vient vers moi. Il m'attrape la main, il me pousse un peu, calme-toi. Il me dit, viens avec moi, on descend, il m'amène à l'extérieur sur le parking. Il se retourne vers moi alors qu'il était complètement gelé en début de semaine. Il incline la tête et il fait, s'il te plaît, prie pour moi maintenant. Les amis, vous savez quoi, j'ai une bonne nouvelle. C'est pas compliqué d'être la lumière quand il fait noir. Dieu t'invite juste à briller. Et en fait, je sais pas si vous êtes au courant, mais le monde va mal. Et les gens ont peur. Et quand les gens vont voir la lumière qui est sur toi, la paix, ils vont te dire, toi, tu as quelque chose que moi, je veux. Et la bonne nouvelle, c'est que la paix de Christ, on peut la partager. Je vous invite à vous lever, je vais demander à l'équipe, juste à Liot, de te mettre derrière le piano, s'il te plaît. Alléluia. Je vous parle d'une vie faite de témoignages, une vie au quotidien où on amène la gloire et la puissance de Dieu. Est-ce qu'il y a des gens, ça vous parle ce que je suis en train de vous dire ? Est-ce qu'il y a des gens, vous croyez que c'est réservé seulement à Jonathan ou vous croyez que c'est pour vous aussi ? Oh, oh, come on, les amis ! Est-ce que vous croyez que c'est difficile d'amener juste la présence de Dieu, vous porter la présence de Dieu en vous, là où vous êtes, dans votre quartier, dans votre maison, dans votre habitation, dans votre hall d'immeuble, dans les visites commerciales, dans votre business, là où vous êtes, avec vos salariés, vos employés, juste amener la présence de Dieu. Et alors que vous faites face à vos géants personnels et que vous vous levez et que vous les affrontez, il y a des gens qui vont vouloir cette présence de Dieu qui vous habite. Et je vous invite à fermer les yeux maintenant. Alléluia. Et j'aimerais faire un appel pour des gens qui font face à un géant personnel. Pour des gens où il y a un géant, il y a une situation que tu traverses. Il y a comme cette intimidation qui est devant toi au niveau de ton travail, au niveau de ta santé. Au niveau familial, dans ce que tu traverses, où il y a une impossibilité. Il y a cette situation où même tu es intimidé, tu te dis je fuis, j'arrive pas à affronter ça. Si je me retrouve face à telle personne, j'ai peur, je n'ose pas y aller. Et je me sens en échec constamment depuis longtemps. Et si ça vous parle, j'aimerais vous proposer l'idée que vous puissiez à partir d'aujourd'hui mettre Dieu dans votre combat personnel, caché, que personne ne connaît. Et à dire, Seigneur, j'ai essayé de me battre par moi-même et à chaque fois j'ai eu peur. Et j'ai oublié de te mettre avec moi. Que ça parle à certaines personnes, juste levez votre main là où vous êtes, si ça vous parle, ok, il y a plein de mains qui se lèvent. Alléluia. Wow. Je sens qu'il y a plusieurs personnes en fait, c'est comme si tu t'es mis de côté, il y a quelqu'un qui est sur ma gauche ici, je sens que tu t'es mis de côté par rapport à ce que Dieu voulait faire avec toi. Oh. Et c'est comme s'il y avait des rêves, il y avait des choses que Dieu avait pour toi dans ta vie. Mais c'est comme s'il y a une saison, il y a un environnement dans lequel tu as évolué qui a fait que tu t'es retrouvé complètement mis de côté et éteint. Et alors que je parle de ces choses, de la grandeur de Dieu, de ce que Dieu veut faire, ça réveille en toi un feu. Et c'est comme si Dieu dit, j'en ai pas fini avec toi. Waouh. Il y a ce feu-là que Dieu est en train de démarrer à Grenoble. Il y a ce feu-là que Dieu démarre partout. Il allume des feux, ne le reconnaîtriez-vous pas ? Et ce feu démarre à l'intérieur de toi. Ce feu, cette vie-là, va aller en grandissant, plus tu lui laisses de la place. Et du coup, j'invite toute l'église Connect Grenoble ici à prendre la main de votre voisin à droite et à gauche. Prenez quelqu'un par la main, Nico, et juste on va prier ensemble, Seigneur. Ranime le feu, ranime la flamme dans la personne qui est à côté de moi. Dites ça à quelqu'un à côté de vous. Partout dans ce lieu, on commence à prier. Élevez vos voix. Partout, commencez à prier. Ramène le feu, ramène une onction, ramène des choses peut-être qu'on s'est fait voler. Ramène cette hardiesse, ramène cette capacité à amener le royaume de Dieu. Simplement, naturellement, par qui on est. Ça ne te demande pas de diplôme. Ça te demande parfois de la gentillesse, un sourire. Alléluia. Allez, prions tous ensemble, les amis. Je vous invite à prier. Allez, 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 comme une ruche, faites monter vos prières. Priez pour la personne à droite, à gauche de vous. Amène ta vie, Seigneur. Amène ce que toi seul es capable de faire. Ramène la vie, Jésus. Ramène une onction, ramène une faveur, ramène de la lumière. Alléluia. Grenoble attend la révélation ardente des fils et des filles de Dieu. Et nous sommes ici, Seigneur, pour manifester ta gloire, Jésus. Alléluia. Seigneur, je te prie pour des témoignages. Je te prie pour des percées. Je te prie que durant cette semaine, il y ait des choses concrètes, des situations concrètes avec des témoignages concrets au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur, parce que tu vas le faire, Jésus. Alléluia. Satan, tu veux prier. Tu veux prier. J'ai demandé à JD de terminer de prier. Et juste, on va relâcher la puissance de Dieu. Est-ce que ça vous parle, les amis? Juste, est-ce qu'on peut tendre les mains au ciel? JD, il va prier. Et Jésus, c'est comme si on envoie quelque chose. On vous envoie dans vos maisons. On vous envoie dans vos entreprises. Come on, J. Allez, vas-y.
Ouais, Seigneur, on veut te bénir, te louer ce matin, Seigneur. Merci, descends sur nous ce matin, Seigneur. Merci pour ton feu, merci pour ta puissance, Seigneur. J'invoque la puissance de ton sang, la puissance de ton esprit au milieu de nous, Seigneur. Tu nous as dit, Seigneur, d'aller faire de toutes les nations des disciples, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, que notre nation soit un disciple de Jésus. Et Seigneur, je prie pour que ton feu vienne, Seigneur. Je prie pour que l'échelle de Jacob soit installée en ce lieu, Seigneur. Que tes anges montent et descendent, Seigneur. Que nous puissions voir ta gloire, Seigneur. Je prie pour une percée dans le ciel, dans les vies de mes frères et de mes sœurs. Seigneur, je prie, Seigneur, pour une saison nouvelle, Seigneur. Je prie pour que ces géants soient terrassés, Seigneur. Parce que tu dis que c'est ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, Seigneur. Nous avons définitivement besoin de ton esprit, Seigneur. Et je prie que cet esprit souffle sur nos vies, Seigneur. Souffle sur nos familles, Seigneur. Souffle sur nos conjoints, Seigneur. Souffle, Seigneur, sur nos collègues de travail, Seigneur. Parce que, Seigneur, tu dis que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, Seigneur. Et je veux, Seigneur, et je crois, Seigneur, que tu veux que chacun puisse te servir, Seigneur, là où il est, Seigneur, là où tu l'as placé en position d'autorité, Père. Merci, Père. Amen. Amen. Et juste, j'avais à cœur aussi, quand Jo parlait au tout début du message ce matin, avant de qu'il donne ce témoignage sur la guérison, je sentais qu'il y avait une personne qui avait une douleur à l'épaule droite, que Dieu voulait toucher, que Dieu voulait guérir, et aussi une personne qui souffrait du dos, et que Dieu voulait la toucher aussi ce matin. Amen.
Les amis, de plus en plus dans cette église, on va développer une culture de miraculeux, une culture où on veut voir la gloire de Dieu agir. Du coup, s'il y a des personnes, vous avez besoin de miracles, vous avez un problème physique, à chaque fois, il va y avoir des équipes ici. Viens Nico, Mimi aussi, viens. Il y a des gens qui vont se trouver ici pour pouvoir prier parce qu'on ne veut pas simplement lire un livre où on entend et on lit des miracles, on veut les vivre, on veut les voir. Du coup, cette réunion est terminée, mais il y a toute une équipe qui se dispose ici pour pouvoir...